Chapitre 19. Sur ceux qui n'embrassent la philosophie que pour en discourir. Voici, ce me semble, les éléments dont se compose le sophisme, le dominateur. Il y a incompatibilité entre les trois propositions suivantes. Premièrement, tout ce qui est vrai dans le passé est nécessaire. Deuxièmement, possible et impossible sont contradictoires. Troisièmement, il y a du possible qui n'a pas été réalisé et qui ne le sera pas. Diodore, s'apercevant de cette incompatibilité, profita de la vraisemblance des deux premières pour substituer à la troisième celle-ci. Rien n'est possible que ce qui a été réalisé ou le sera. D'autre part, les uns conserveront ces propositions-ci comme étant les deux vraies. Il y a du possible qui n'a pas été réalisé et qui ne le sera pas, et, possible et impossible, sont contradictoires. Mais ils ne maintiendront pas celle-ci, tout ce qui est vrai dans le passé est nécessaire. C'est ce que paraît dire Cléante, auquel s'est le plus souvent rallié Antipater. D'autres maintiendront ces deux-ci. Il y a du possible qui n'a pas été réalisé et qui ne le sera pas, et tout ce qui est vrai dans le passé est nécessaire. Mais ils diront que possible et impossible ne sont pas contradictoires. Quant à maintenir les trois propositions, cela ne se peut à cause de leur incompatibilité réciproque. Que si quelqu'un me demande « Et toi, quelles sont celles de ces propositions que tu gardes ?» Je lui répondrai « Je n'en sais rien. » Mais j'ai appris cette histoire que Diodore maintenait les propositions ci-dessus, tandis que Pantoïs et Cléante, je crois, maintenaient les autres, et Chrysippe d'autres encore. « Mais toi, enfin ?» Moi, je ne me suis pas attaché à cette question. Je n'ai pas soumis à une pierre de touche mes pensées là-dessus. Je n'ai pas comparé ce qu'on en dit, et je ne me suis pas fait de conviction sur ce point. Aussi, je n'y diffère en rien d'un simple maître d'école. Quel était le père d'Hector ? Priam, et ses frères, Paris et Déiphobe. Quelle était leur mère ?
Hécube.
C'est une histoire que j'ai apprise. Et de qui ? D'Homère. Je crois qu'Hélanicus et quelques individus du même genre ont également écrit sur ce sujet.
Mais si j'étais vaniteux, j'émerveillerais l'assistance, à table surtout, en énumérant tous ceux qui en ont écrit.
Chrysippe en a écrit des choses merveilleuses, dont son premier livre sur les possibles. Cléante aussi a écrit spécialement sur lui, ainsi qu'Archédémus. Antipater aussi a écrit sur lui, non seulement dans son traité des possibles, mais dans son livre sur le dominateur en particulier. N'as-tu pas lu cet ouvrage ?
Je ne l'ai pas lu.
Lis-le. Et qu'en retirera-t-on ? On en deviendra plus bavard et plus fatigant qu'on ne l'est à cette heure. Car toi, qu'as-tu gagné à le lire ? Quelle conviction t'as-tu faite à propos de cette question ?
Aucune.
Mais tu nous parleras d'Hélène et de Priam et de l'île de Calypso qui n'a jamais été et qui ne sera jamais.
Ici, il n'y a pas grand mal à ne savoir que l'histoire, sans s'être fait une conviction à soi. Mais la même chose nous arrive dans les questions de morale, bien plus encore que dans ces questions-ci. Parle-moi des biens et des maux, disons-nous à quelqu'un.
Écoute, répond-il.
En venant d'Ilion, le vent, qui me poussait, m'a conduit chez les Cicônes. Parmi les choses, les unes sont bonnes, les autres mauvaises, les autres indifférentes. Les bonnes sont les vertus et tout ce qui s'y rattache. Les mauvaises sont les vices et tout ce qui se rattache aux vices. Les indifférentes, qui sont entre les deux, sont la richesse, la santé, la vie, la mort, le plaisir, la peine. Et comment le sais-tu ?
C'est Hélanicus qui le dit dans les Égyptiaques.
Mais qu'importe de répondre cela ou de répondre que c'est Diogène, dans son éthique, ou bien Chrysippe, ou bien Cléante ? As-tu examiné à fond quelqu'une de leurs pensées et t'es-tu fait une conviction à son endroit ? Montre-moi comment tu as l'habitude de te comporter sur un bâtiment pendant une tempête. Rappelle-toi ces distinctions, lorsque le vent mugit dans les voiles, et lorsque, pendant que tu cries, un malencontreux qui est de loisir s'approche et te dit « De par tous les dieux, dis-moi maintenant ce que tu disais hier. Est-ce que le naufrage est un vice ou se rattache à quelque vice ? Ne prendrais-tu pas alors un bâton pour l'en frapper ? Homme, lui dirais-tu, qu'avons-nous à faire de toi ? Nous périssons et tu viens plaisanter. Si César te faisait comparaître devant lui par suite d'une accusation, te rappellerais-tu encore tes distinctions? Si pendant que tu entrerais pâle et tremblant, quelqu'un t'abordait et te disait « Homme, pourquoi trembles-tu? De quoi est-il question pour toi ici? Est-ce que César met la vertu ou le vice au cœur de ceux qui viennent à lui? Que viens-tu me railler, en plus de mon malheur? Lui dirais-tu. Et cependant, répondrait-il, dis-moi, philosophe, pourquoi tu trembles? Ce dont tu cours risque ici, n'est-ce pas la mort, la prison, la souffrance corporelle, l'exil, ou une flétrissure? Et un autre, n'est-ce pas? Eh bien, est-ce qu'il y a dans ces choses quelque vice ou quoi que ce soit qui se rattache à un vice? De quel nom les appelais-tu donc hier? Homme, dirais-tu, qu'ai-je à faire de toi? J'ai bien assez de mes mots. Et tu dirais juste. Tu as bien assez de tes mots, assez de ton manque de cœur, de ta lâcheté et de ta vanité, qui te faisait si bien te vanter quand tu étais assis dans l'école. Pourquoi te parais-tu de ce qui ne t'appartenait pas? Pourquoi te disais-tu stoïcien? Observez-vous vous-même d'après cela quand vous agissez, et vous trouverez à quelle école vous appartenez. Vous trouverez que la plupart d'entre vous sont épicuriens, quelques-uns péripatéticiens, mais bien relâchez cela. Ou serait-il vrai en effet que dans la pratique vous tenez la vertu pour égale et même supérieure à tout le reste? Montrez-moi un stoïcien, si vous en avez un. Où et comment le feriez-vous? Vous me montrerez, il est vrai, des milliers d'individus parlant le langage du stoïcisme. Mais ces mêmes gens parlent-ils moins bien le langage d'Épicure? N'explique-t-il pas aussi parfaitement le péripatétisme lui-même? Où donc est le stoïcien? De même que nous appelons statues phidiaques, celles qui sont faites d'après le système de Phidias, montrez-moi un homme qui se trouve fait sur le patron des maximes qu'il énonce en babillant. Montrez-moi un homme qui soit à la fois malade et heureux, en péril et heureux, mourant et heureux, exilé et heureux, flétri et heureux. Montrez-le-moi. De par tous les dieux, je voudrais voir un stoïcien. Si vous ne pouvez m'en montrer un tout fait, montrez-moi un qui soit en train de se faire, un qui penche vers cette manière d'être. Soyez bon pour moi. Ne refusez pas à ma vieillesse la vue d'un spectacle que je n'ai pas encore eu sous les yeux. Croyez-vous que ce que vous avez à me montrer, ce soit le Jupiter ou la Minerve de Phidias, ouvrage d'or et d'ivoire? Non. Que quelqu'un d'entre vous me montre une âme d'homme, qui veuille être en communauté de pensée avec Dieu, n'accuser ni Dieu ni homme, n'être frustré de rien, n'aller se heurter contre rien, n'avoir ni colère, ni haine, ni jalousie, une âme qui veuille, car à quoi bon tant d'embâges, devenir un dieu au lieu d'un homme, et qui songe dans ce misérable corps périssable à vivre en société avec Jupiter. Montrez-moi une. Vous ne le pouvez pas. Pourquoi donc vous dupez vous-même et jouez les autres? Pourquoi vous revêtir des habits d'autrui et vous promener de par le monde après avoir dérobé et volé un nom et un rôle qui ne vous appartiennent pas? Et maintenant, moi, je suis votre maître, et vous vous étudiez sous moi. Mon but à moi, c'est de faire enfin de vous des hommes affranchis de toute entrave, de toute contrainte, de tout obstacle, libres, tranquilles, heureux, qui tournent leur regard vers Dieu dans les petites comme dans les grandes choses. Et vous, vous êtes ici pour apprendre et pour travailler à devenir ces hommes. Pourquoi donc l'œuvre ne s'achève-t-elle pas? Si vous avez le même but que moi, et avec le même but les moyens qu'il faut pour l'atteindre, que nous manque-t-il encore? Quand je vois un ouvrier avec ses matériaux près de lui, je n'attends plus que son ouvrage. Nous avons ici l'ouvrier et les matériaux. Que nous manque-t-il encore? Est-ce que la chose ne peut pas s'apprendre? Elle le peut. Est-ce qu'elle n'est pas en notre pouvoir? Il n'y a qu'elle au monde qui y soit. Ni la richesse, ni la santé, ni la réputation, ni quoi que ce soit, n'est en notre pouvoir si ce n'est le bon emploi des idées. Voilà la seule chose qui, de sa nature, échappe à toute contrainte et à tout empêchement. Pourquoi donc notre œuvre ne s'achève-t-elle pas? Dites-moi la cause. Si elle ne s'achève pas, cela tient-il à moi, à vous, ou à la nature même de la chose? La chose en elle-même est possible, et la seule qui soit en notre pouvoir. Il reste donc que cela tienne à moi ou à vous, ou, ce qui est plus exact, à moi et à vous. Eh bien, voulez-vous que nous nous mettions à apporter ici la ferme intention de l'affaire?
Laissons là tout le passé.
Mettons-nous seulement à l'œuvre. Fiez-vous à moi et vous verrez.